29 octobre 1969. ARPANET, le premier réseau à transfert de paquets, voit le jour dans les bureaux américains de la DARPA, une agence de projet de recherche pour la défense. Les fondations de l'ARPANET serviront de base pour, vous l'avez deviné, le réseau le plus utilisé au monde, Internet. Bon, ça c'est l'histoire très très abrégée que Gou et moi on connaissait déjà. Et puis, en préparant l'émission, en cherchant des invités, en bouquinant un peu à côté, on est tombé sur le livre de Félix Tréguet, Contre-histoire d'Internet du 15e siècle à nos jours. Comment ça, du 15e siècle à nos jours? On parle bien d'Internet là? Félix Tréguet, on l'a pas précisé, c'est pas n'importe qui, hein. C'est d'abord un chercheur associé au Centre Internet et Société du CNRS, mais c'est également l'un des membres fondateurs de la Quadrature du Net, l'une des associations de référence en France en ce qui concerne la défense des libertés fondamentales dans le numérique. Avec cette courte biographie, je pense que vous avez quelques indices concernant la coloration du livre. Ce livre sur la contre-histoire d'Internet, d'ailleurs, il s'accompagne d'une suite sortie cette année en 2024, appelée Technopolis, la surveillance policière à l'ère de l'intelligence artificielle. Voilà, vous avez les bases, plus de surprises donc, dans ce nouvel épisode d'Azerty, on a le plaisir d'échanger avec Félix Tréguet sur la contre-histoire d'Internet. Avec lui, on discute des notions d'espace public, de surveillance et de contrôle d'État, ou encore de certaines utopies déchues.
Ok, je lance Azerty.
Entrons tout de suite dans le bain en s'attardant sur le mot contre-histoire. Écrire un livre qui s'intéresse à l'histoire alternative d'Internet, ou en tout cas celle qu'on raconte moins, celle qu'on connaît moins, ça n'a rien d'anodin. Pourquoi ? D'où vient cette envie, ce besoin de raconter la contre-histoire d'Internet ?
La notion de contre-histoire, elle est mise en exergue par Michel Foucault, le philosophe français, pour montrer à quel point l'histoire joue un rôle politique et à quel point une histoire peut se faire contre l'histoire officielle. Dans le XVIIIe siècle dont parle Foucault, c'était une histoire de la bourgeoisie qui faisait l'histoire de la conquête du pouvoir par l'absolutisme royal et donc une histoire qui visait à rendre visible des choses passées sous silence par l'histoire officielle. Et s'agissant d'Internet, il m'a semblé qu'il y avait un peu cette nécessité dans la mesure où, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions dans le cadre de ma thèse en sciences sociales à l'EHESS, on était autour de 2012-2013, on était encore marqué par une historiographie d'Internet très dominée par des historiens, des travaux qui mettaient en exergue la filiation humaniste, très, disons, utopiste d'Internet, notamment la manière dont les pères fondateurs de l'Internet, ces scientifiques masculins, états-uniens, qui ont travaillé à la mise au point de ce réseau et de ces premier protocole, à quel point, en gros, ils avaient réussi à travailler, certes, avec les financements militaires, dans le cadre du complexe militaro-industriel, en cette période de guerre froide, dans les années 50, 60, 70, mais en réussissant à se ménager de grandes marges d'autonomie pour travailler à l'édification de ce réseau accentré, favorable à la dissémination des connaissances, à la liberté d'expression, etc. Et bref, cette histoire un peu enchantée, il me semblait qu'il y avait nécessité de la contester, de faire valoir d'autres traditions historiographiques qui avaient pu exister mais qui étaient en partie invisibilisées ou qui se sont, disons, garnies ces dernières années grâce aux travaux d'historiens, justement pour notamment, par exemple, mettre en exergue les liens très forts et les formes de dépendance très fortes de ces scientifiques, notamment je pense à Joseph Licklider, l'un des pères fondateurs de l'ARPANET, l'ancêtre d'Internet, vis-à-vis du Pentagone et du giron militaire.
Jusqu'à présent, tout me semble clair. Mais ce qui est étrange dans ces livres, c'est qu'ils commencent à 1500, avec l'invention de l'imprimerie. Bon, comme Internet n'existait pas, je crois, je me demande de quoi Félix veut vraiment parler.
L'enjeu de cette contre-histoire qui revient aux origines des formes de régulation des médias et notamment à la naissance de l'imprimerie, c'est de replacer Internet dans une histoire beaucoup plus longue de la manière dont l'État moderne a régulé les médias, les techniques de communication qui se sont déployées à travers les âges depuis, disons, la naissance de l'imprimerie à la fin du 15e siècle. Donc c'est vraiment concomitant, cette révolution de l'imprimerie, de la naissance des États modernes et du déploiement de nombreuses techniques de pouvoir liées à la maîtrise du potentiel subversif des moyens de communication. Et du coup, ce que j'essayais de faire dans cette histoire de temps long d'Internet, c'est de le replacer dans cette histoire de ces techniques de pouvoir nées dans le giron de l'État moderne et notamment de voir comment les différentes formes de pouvoir qui se sont remises en selle à l'ère numérique s'agissant d'Internet combinent à la fois les formes de surveillance des communications, les formes de censure des des expressions dans l'espace public médiatique, les formes de propagande et donc de mise en scène du pouvoir, et enfin le secret par lequel l'État et les pouvoirs de ce monde s'abritent de la controverse, s'abritent de la mise en accusation ou des formes de dénonciation qui peuvent se faire jour dans l'espace public. Donc quatre techniques de pouvoir, complétées par une cinquième branche de ce que j'appelle effectivement la police de l'espace public médiatique, qui est le fait de centraliser au plan technique l'infrastructure de communication. Et remonter au XVe siècle, encore une fois, c'est aussi une manière de mettre à distance la passion de notre époque pour la nouveauté, l'idée que, voilà, on a l'impression que tous les problèmes qui se posent aujourd'hui avec Internet sont sans précédent dans l'histoire, qu'ils sont intimement liés à la puissance de la technologie informatique. Or, lorsqu'on prend cette focale de temps long, on se rend compte en fait que c'est là, c'est une manière de rejouer en fait des problématiques, des controverses, des problèmes politiques qui se sont posés à travers l'histoire. Et en fait, on n'est jamais en train de complètement inventer les choses. Et je trouve que c'est aussi intéressant de montrer voilà, la proximité de certaines réflexions ou l'élaboration doctrinale au XVIIIe siècle, dans le contexte de la Révolution française, avec certains débats contemporains, par exemple.
Bon, ok. Voir Internet comme les descendants de Gutenberg n'est certainement pas l'idée que je me faisais habituellement. De plus, ce que Félix nous dit, c'est que toute cette passion par la nouveauté numérique d'aujourd'hui est en fait nous rejoignant juste une partie d'une histoire que nous avons déjà vue, depuis les Lumières jusqu'à la création de l'imprimerie et des médias modernes. En fait, dans les livres, on apprend par exemple que dans les années 1600, des chansons ont été utilisées pour faire des remixes satiriques ou politiques, comme TikTok, ou que même à l'époque, certains hommes politiques considéraient que c'était une chose scandaleuse et inacceptable. Bon, d'accord, acceptons sa façon de voir l'histoire de l'Internet, mais du coup, pour le comprendre, il faut remonter aux Lumières et à la Révolution française pour voir comment se sont construits ces nouveaux droits, comme la liberté d'expression.
Il y a une forme d'inversion, c'est-à-dire qu'on passe d'un régime absolutiste où le pouvoir bénéficie d'un secret, pouvait avoir de grandes largesses dans la censure des écrits, dans la surveillance des communications, des lettres notamment, à un régime où en fait, alors le mot n'est pas forcément employé à l'époque, un régime démocratique ou en tout cas basé sur la souveraineté populaire. Et où, du coup, l'enjeu, ça va être de recréer une forme de symétrie entre les prérogatives de l'État et celles du peuple et de la population. Et notamment, la Révolution française, en tant que processus politique, elle se définit par opposition aux ténèbres de l'ordre féodal. Là où il y avait une forme d'arbitraire dans la censure des écrits, dans la surveillance des communications, la Révolution française et les régimes qui en découlent vont protéger la confidentialité des communications. Cette inversion, elle est très claire aussi dans les vocables. Et on voit aussi le terme de surveillance repris de cette manière. Par exemple, il y a des papiers en tête pendant la Révolution française où la devise de la République, ce n'est pas égalité, liberté, fraternité, c'est égalité, liberté, surveillance. Et la surveillance, c'est la surveillance du pouvoir par le peuple. Sauf que, et c'est ce que j'essaie de montrer, c'est que derrière ces belles déclarations de principes, qui sont aussi symbolisées par l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce qui se joue aussi dans tout ce contexte-là, c'est évidemment la continuation des techniques de pouvoir de l'ordre féodal dans le cadre du régime représentatif, voire républicain, qui se met en œuvre sous la Révolution et qui ont survécu à travers les différentes crises politiques du 19e siècle et à travers les progrès aussi du libéralisme politique et donc de la protection des droits et notamment du droit à la liberté d'expression, mais où ces avancées au plan juridique s'accompagnent aussi de certains reculs du point de vue de l'économie politique des médias, de la centralisation de cette économie politique, notamment à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, et où en fait les progrès de la démocratisation sont dans leurs effets politiques en partie empêchés, obérés par ces logiques économiques, par les logiques d'alliance entre les financiers qui détiennent en gros les moyens de communication et le pouvoir étatique.
Là, les choses sont devenues très théoriques. On discute avec un sociologue après tout. Mais si je comprends bien, il faut garder en tête que les expressions médiatiques libres, la presse et autres, sont des conséquences de batailles révolutionnaires qui s'inscrivent en opposition avec l'époque féodale. J'avoue être un peu secoué par ce que je viens d'apprendre. Le mot « surveillance » utilisé dans la devise nationale pour symboliser le fait que le peuple surveille le pouvoir, sur le principe, ça me paraît ok. Pour autant, ceux qui disposent du pouvoir ont su le garder malgré les avancées juridiques et la diversification de l'expression médiatique. Pour faire simple, c'est un peu ça qui explique pourquoi, en 2024, on se retrouve avec la majorité des grands médias et des grands réseaux sociaux qui sont détenus par des milliardaires. Milliardaires qui n'hésitent pas à utiliser leur pouvoir d'influence médiatique pour servir leurs intérêts et leur opinion politique. Elon Musk qui utilise X pour favoriser l'élection de Trump, ou Bolloré qui diffuse son idéologie nauséabonde dans ses chaînes de télé, ses journaux et ses radios, prouvent que le pouvoir bourgeois, encore aujourd'hui, possède et contrôle les espaces d'expression. Ça, franchement, c'était déjà pas mal à assimiler. Mais dans son livre, Félix parle aussi de la police.
Dans la contre-histoire d'Internet, une histoire de la police de l'espace public médiatique, et dans Technopolis, une histoire de la police de l'espace physique, l'espace public urbain en tant que tel. Ce qu'il faut avoir aussi en tête dans cette histoire, c'est que je parlais des progrès de la démocratisation de l'espace public médiatique, notamment avec une plus grande protection de la liberté d'expression au fur et à mesure du 19e siècle. Ça se fait au détriment aussi d'une forme, d'une capacité d'expression et de réunion. Donc un droit de manifester ses opinions dans l'espace public physique. C'est comme s'il y avait eu, au cours du 19e siècle, une prise de conscience encore plus forte de la part des élites de la puissance subversive des corps des sujets assemblés dans la rue. Au 19e siècle, il y a de nombreuses révoltes, hein, les journées de 1830, 1848, la Commune en 1871. Donc il y a tout un enjeu, en fait, pour le pouvoir de lâcher du lest, quelque part, sur la circulation des idées dans l'éther un peu des médias, de l'imprimé, éventuellement du théâtre et plus tard de la radio. Mais par contre, exprimer ces mêmes idées, s'organiser politiquement dans l'espace public physique et notamment dans l'espace de la rue, c'est perçu comme beaucoup plus subversif pour le pouvoir, et donc c'est un droit et des capacités qui vont être corseté et beaucoup plus étroitement régi au fur et à mesure du 19e siècle. Même dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui est une grande loi libérale de la Troisième République qui vient consacrer le principe d'une protection judiciaire de la liberté d'expression, c'est-à-dire qu'on ne peut pas censurer un écrit avant sa publication, après la publication, éventuellement un juge judiciaire qui va décider et juger de savoir si tel ou tel écrit, telle ou telle expression publique est contraire à la loi. Parce que c'est diffamatoire, parce que c'est des injures publiques, etc. En fait, dans cette loi, le fait, par exemple, de faire des chants dans la rue ou l'affichage public dans la rue est beaucoup plus étroitement contrôlé.
Le 19e siècle est aussi l'époque où on commence à penser au futur ordinateur. Par exemple, avec la machine analytique de Charles Babbage. Et c'est ici que notre discussion sur l'histoire de l'espace public prend, pour moi, une tournure inattendue. Félix décrit une histoire de l'ordinateur dès le début comme un outil de prise de décision, à la place d'un État composé de politiciens défaillants. Un outil pour la bureaucratisation de l'État, quoi. Et non comme un instrument scientifique. Et bon, et il sait ce qu'il dit, hein, parce que le livre est rempli de citations assez claires. Et c'est là que moi je pense tout de suite à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui encore, certains prétendent que l'IA serait capable de prendre des décisions à notre place. Et bah voyons comment réagir à ça.
Je pense que l'intelligence artificielle, comme processus d'automatisation, c'est là encore un nouveau paradigme et une manière de revisiter des processus qui sont en effet à l'œuvre depuis au moins le 19e siècle, en tout cas avec une intensité, disons, des instruments techniques outillant les bureaucraties publiques et privées qui est beaucoup plus fort à partir du 19e siècle. C'est un moment où les États-nations se consolident, les échelles en fait du pouvoir et l'intégration du pouvoir sur des échelles territoriales très vastes, encore plus avec les colonisations du 19e siècle, nécessitent des outils techniques de plus en plus sophistiqués pour permettre de transmettre de l'information et de faire en sorte que ces bureaucraties ou ces marchés capitalistes qui s'étendent sur de vastes territoires puissent être intégrés et fonctionner du mieux possible. Et donc réduire le temps de transmission de l'information, la capacité à transmettre ces informations, voire à exécuter certaines fonctions de manière toujours plus automatisée, c'est des processus qui sont consubstantiels de la consolidation bureaucratique au 19e siècle et du développement du capitalisme. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est l'automatisation de l'automatisation. C'est-à-dire en fait, via des algorithmes de machine learning, on arrive à automatiser le fait de construire des programmes qui automatisent. Mais en fait, la machine à calculer de Babbage dès le milieu du 19e siècle traduisent la nécessité en effet pour des bureaucraties d'automatiser certaines tâches et donc de réduire la marge d'interprétation des travailleurs et travailleuses humaines. Ces réflexions et ce processus-là par lequel le capitalisme, via tout un tas de médiations technologiques, réduit les marges d'interprétation des agents humains qui le composent et qui produisent des richesses, ça c'est un processus central, et je pense que l'intelligence artificielle, évidemment aujourd'hui telle qu'elle est déployée, s'inscrit dans ces rapports de force historiques, dans un contexte où pour le coup le rapport de force entre capital et travail est très défavorable aux travailleurs et travailleuses.
Waouh, le tableau que nous dresse là Félix est quand même assez noir. Pour autant, j'ai pas l'impression que la machine ait toujours été perçue comme un outil au service du capital et de la production. En bon idéaliste que je suis, j'aurais même envie de penser que justement, la machine devrait nous libérer, au moins en partie du travail. Dans les années 50-60, en plein mouvement des droits civiques, dans une ambiance de guerre au Vietnam, aux États-Unis, idéalistes et sceptiques de la machine confrontent leur discours à gauche. Félix nous raconte les premières critiques, mais aussi les premières rêveries permises par l'informatisation.
En fait, dans cette histoire un petit peu utopiste, bienveillante, humaniste de l'informatique et d'Internet, dont je disais tout à l'heure qu'elle avait un peu dominé les discours jusqu'à il y a pas mal quelques années, c'est vrai que cette critique de l'informatique très forte au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier dans les années 60, est un peu passée sous silence. Et il y a un peu du coup cette opposition entre une partie de la nouvelle gauche de l'époque qui aurait vu à quel point l'informatique était l'arme au service des grandes bureaucraties publiques et privées, à quel point c'est une machine à gouverner, à quel point elle est utilisée de plus en plus dans une logique d'un gouvernement rationnel voire rationaliste, extrêmement froid, déshumanisant, et à quel point cette machine est aussi appropriée par les grandes bureaucraties privées et le capitalisme. Et donc ça c'est tout un pan de la nouvelle gauche qui va attaquer la recherche en informatique sur les campus états-uniens de la fin des années 60 en pointant leur collaboration avec les programmes de guerre contre-insurrectionnelle du Pentagone. C'est des groupes qui vont parfois mettre le feu à des installations informatiques et qui voient vraiment l'ordinateur comme une production technologique qui incarne ce gouvernement bureaucratique, ce pouvoir bureaucratique froid et déshumanisé. Et de l'autre côté, effectivement, il y a une partie de la nouvelle gauche, plus artistique, qui va se dire que l'ordinateur, peut-être en fait que c'est l'une de ces machines produites par le capitalisme et l'État qui restent des adversaires politiques, mais qu'on va pouvoir se réapproprier à des fins d'émancipation pour mieux communiquer à l'échelle planétaire. Et voilà, et du coup là, l'informatique, comme l'avait été avant elle la radio, va être l'une de ces technologies qui va cristalliser des utopies, en fait, des utopies communicationnelles, des utopies politiques. Et donc, il y a tout un travail comme ça. Et ça, c'est un peu les deux camps dressés l'un contre l'autre dans l'historiographie. Et il me semble, et c'est ce que j'ai aussi essayé de faire dans Contre-histoire d'Internet, c'est d'essayer de nuancer un peu ces oppositions très binaires et de montrer à quel point il pouvait y avoir des gens très engagés dans la nouvelle gauche politique, dans les manifestations contre la guerre au Vietnam, qui dénonçaient aussi déjà les ravages écologiques, enfin tous les problèmes qui continuent d'être les nôtres aujourd'hui, et qui en même temps avaient cette veine, disons, expressiviste d'une idée de se réapproprier des formes technologiques, des artefacts technologiques aux fins d'émancipation.
Tout cela est très intéressant et j'ai passé des heures à discuter avec Félix de l'histoire de la critique technologique. Mais pour notre contre-histoire, quelque chose est sur les points d'arrivée qui change toutes les cartes. Avec l'arrivée dans les années 80 de Minitel, l'un des prédécesseurs d'Internet, les gens découvrent qu'ils peuvent communiquer entre eux et elles grâce à l'ordinateur. Et ça, c'est cool. Voilà la jonction entre la liberté d'expression révolutionnaire et l'espace public numérique.
Dans les années 80, en effet, Internet et d'autres réseaux de communication, le réseau Minitel que tu mentionnais, le réseau Usenet, sont en effet appropriés et font l'objet d'usages qui sont assez loin de ce que les gens qui avaient conçu ces systèmes envisageaient. Et donc, il y a des appropriations assez subversives. Et effectivement, l'État se retrouve complètement désarçonné. Tous les outils qui sont développés depuis plusieurs siècles pour réguler les médias ne marchent plus vraiment sur Internet. C'est un réseau transfrontière. On ne sait pas encore identifier vraiment qui parle à qui. Et tout, voilà, tout ce modus operandi un peu du contrôle de l'espace public médiatique est un peu défait dans cet environnement numérique, comme l'avaient été un peu les formes de régulation des imprimés au moment de la naissance de l'imprimerie, avec des appropriations subversives, évidemment l'essor du protestantisme à l'époque, des guerres de religion. Et donc c'est un moment de déstabilisation très fort des pouvoirs politiques en place que la naissance de l'imprimerie. Et Internet ne va pas générer évidemment de telles conséquences historiques, mais en tout cas, clairement, on peut voir dans les années 80 à quel point cet espace fait peur. C'est un espace qu'on qualifie d'anarchiste, hors la loi, et donc il est perçu comme vraiment hostile aux formes de pouvoir des États, ce qui va conduire à la définition d'un projet effectivement visant à re-réguler cet espace, mais très clairement au détriment des libertés publiques, y compris les droits acquis de haute lutte au XIXe siècle, comme le principe d'une protection judiciaire de la liberté d'expression. Hein. Dans les années 90, les projets de censure des écrits Internet, on n'en passe pas par le juge, il s'agit de confier ça à des autorités administratives, à la police en gros. Et donc, du point de vue strictement juridique, ça s'acte d'un vrai recul. Il y a l'idée aussi que, en fait, la liberté d'expression, c'était pour les journalistes professionnels, mais que Internet donne l'accès à cette faculté de s'exprimer à l'échelle mondiale à n'importe qui, et que ça, en tant que tel aussi, les formes, disons, de dressage ou de discipline inculquée aux professionnels de l'espace public médiatique n'ont plus cours lorsque des millions, des dizaines de millions, voire des milliards d'amateurs peuvent s'exprimer à grande échelle. Et ça aussi, c'est perçu comme extrêmement problématique.
Et c'est dans ce contexte que le cyberespace est devenu, lui aussi, un endroit de lutte politique. Aujourd'hui, on ne compte plus les affaires entre hackers activistes et l'État. Le pouvoir montre chaque année qu'il n'hésitera pas à user du potentiel du monde numérique pour réprimer ou surveiller. En témoigne l'affaire Snowden, par exemple. Au fait, j'ai dit cyberespace, mais les outils technologiques utilisés par l'État peuvent dépasser les frontières virtuelles. Ça, on en a un peu parlé quand on évoquait les Jeux Olympiques dans notre épisode avec Myriam Michel, une autre membre de la Quadrature du Net. Mais laissons quand même Félix développer un peu cette idée.
Quand l'État est menacé, et clairement un réseau de communication comme Internet, où au départ il n'a pas les outils pour le réguler, c'est extrêmement menaçant. L'État surréagit, en fait, s'accorde la capacité à s'émanciper des protections liées aux droits humains, en fait. Et c'est des choses qu'on voit effectivement à l'œuvre dans la manière dont Internet a été régulé. C'est toujours des processus compliqués, parce que parfois il y a des décisions de justice qui contrecarrent tel ou tel projet, qui dénoncent telle ou telle action illégale. Je distinguerai un peu ce processus-là de ce qu'on a vu, et je pense que c'est ce que tu as en tête aussi, sur les questions de vidéosurveillance algorithmique, de police prédictive et des formes de surveillance informatique de l'espace public urbain par la police, qu'on a analysé dans le cadre de notre campagne Technopolis et sur lesquelles je reviens dans ce livre Technopolis. Là, pour le coup, c'est encore aussi très typique de la manière dont la police s'approprie des technologies de surveillance, où en fait, quelque part, la fin justifie les moyens, la technologie permet de le faire, et la police n'a évidemment pas grand problème à s'émanciper du droit, et alors même que c'est très clair, par exemple sur les drones, par exemple sur la vidéosurveillance algorithmique, il n'y a aucun cadre juridique existant, et donc tous ces déploiements sont illégaux. Ça ne les empêche pas de le faire, et ça les empêche d'autant moins de le faire que les contre-pouvoirs censés lutter contre ces formes de surveillance illégale, notamment je pense à la CNIL, mais c'est le cas aussi du pouvoir judiciaire, sont totalement défaillants. Et qu'en fait, alors même que le fait de surveiller une population de manière illégale est réprimé par le code pénal, est passible de peine d'emprisonnement et de prison, ces règles, ces dispositions pénales ne sont jamais appliquées pour poursuivre ou inquiéter tel ou tel préfet de police, tel ou tel ministre de l'Intérieur.
Là, il restera ta voix off, alors je vais laisser ton commentaire.
Alors là, il faudra un peu résumer tout ce qu'on a dit, du coup, les passages en nouveaux Internet. Et il faudrait aussi rajouter un élément qu'on n'a pas eu le temps, c'est le fait que, bon, Internet est passé d'un espace libre à un espace extrêmement contrôlé, et que, aussi, c'est un espace qui analyse tout le temps toutes les choses qu'on fait quand on scrolle sur Instagram, c'est analysé, etc., etc. Et que, du coup, par rapport à l'Internet du début, pour cette description-là, on a l'impression qu'Internet ne fasse plus rêver. Et une fois dit ça, aller questionner les discours de contrôle de l'espace public, c'est-à-dire, bon, on a tracé ces parallèles entre la liberté de la presse et l'espace public. Là, on voit que l'espace Internet est quadrillé. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace libre, dans l'espace physique, et comment le numérique s'articule avec cet espace physique ?
Ben, c'est vraiment l'inquiétude qui est au cœur de la démarche poursuivie avec la campagne Technopolis. On a compris ça, quoi, qu'après nos travaux sur la surveillance massive d'Internet, on voyait ces mêmes outils big data, ces mêmes outils informatiques de croisement de données, d'analyse prédictive, être transposés dans l'espace public urbain, dans les pratiques de la police urbaine, la police du quotidien, et se dire que les formes de surveillance massive, systématique, qui se sont déployées depuis une quinzaine d'années sur Internet, arrivées dans l'espace physique, dans l'espace où se meuvent nos corps et où se déroule une grande partie de nos activités sociales, c'était extrêmement inquiétant. Et Internet, tu le disais, ne fait plus vraiment rêver. Après, c'est pas pour dire que même sur Internet, malgré cette économie politique très centralisée, malgré l'alliance toujours plus poussée entre Google, Microsoft, TikTok et d'autres réseaux sociaux ultra dominants avec différents pouvoirs étatique, il y a quand même encore des pratiques de résistance et des manières de faire autrement. Mais par contre, ce que permet de souligner, disons, un constat un peu lucide et forcément un peu aussi défaitiste sur l'état des libertés sur Internet, c'est qu'en fait, il aurait été possible de faire autrement. Si Internet n'était pas apparu dans un contexte de néolibéralisme effréné des années 1990, s'il y avait une volonté politique, elle a été portée par certains acteurs à l'époque, de construire, repenser des services publics, d'utiliser cette technologie dans le sens du bien commun et de l'intérêt général, plutôt que comme un marché très peu régulé. Et on aurait pu construire des choses autrement. Et de fait, il y a encore plein d'alternatives qui existent aujourd'hui, que ce soit au travers des fournisseurs d'accès associatif sur le territoire français, ailleurs en Europe et ailleurs dans le monde. Donc des communautés à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un village, qui s'organisent pour construire leur propre réseau local Internet et s'interconnecter au réseau global, que ce soit à travers les initiatives de Framasoft et d'autres hébergeurs militants qui visent à concevoir des outils en logiciel libre hébergés de manière décentralisée pour justement se réapproprier nos moyens d'expression et de communication sur Internet. Toutes ces alternatives-là, elles peuvent faire l'objet de politiques publiques qui permettent de les développer et nous émanciper en fait d'un Internet effectivement reféodalisé, dominé par ces grands groupes capitalistes et des États complices. Donc il y a plein de briques qui sont déjà présentes, plein d'expérimentations passionnantes qui en plus ont intégré un truc qui a été une vraie impensée du mouvement pour les droits numériques, qui est l'impact écologique de l'informatique. Et donc il nous appartient vraiment d'arriver à réunir ces initiatives et d'en refaire un projet politique alternatif pour le futur d'Internet. En fait, on a laissé, au lieu de faire un Airbnb public, au lieu de faire plein de plateformes qui auraient pu être des logiciels libres publics qui contribueraient au bien commun, à la fiscalité publique, etc. C'est autant d'argent qui part dans les poches de fonds d'investissement de la Silicon Valley, de cyberlibertariens racistes et voire fascistes extrêmement dangereux.
Bon, même si encore une fois les constatations de Félix sont plutôt sombres, j'aime beaucoup ce qu'il dit, puisque je pense que pour proposer des alternatives, il faut pouvoir dresser les constats de ce qui a échoué, de ce qui aurait pu mieux se passer, de pourquoi les choses se sont déroulées de cette façon. Qu'Internet soit né dans ce contexte de néolibéralisme effréné, comme il le raconte, que les pouvoirs politiques ne se sont pas emparés de ces outils pour le bien commun, ça permet d'expliquer pourquoi Internet a évolué de cette façon. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas besoin de développer de nouveaux imaginaires pour penser notre rapport à la technologie? Comment est-ce qu'on pourrait faire autrement? Quelles autres réponses on pourrait avoir aux problématiques de surveillance et de sécurité soulevées par le numérique? Quand on pose ces questions à Félix, avec goût, on ne s'attendait pas à ce que sa réponse soit le féminisme.
Ce que j'essaie de rappeler dans le livre et de montrer un peu pour avoir fréquenté ce milieu technosécuritaire depuis plus de 5 ans, c'est à quel point il est dominé par des hommes blancs en position de pouvoir et à quel point leur manière de penser la ville, une ville stérilisée, à quel point leur manière de penser la sécurité uniquement par le prisme étriqué de la police et de la répression, à quel point en fait dans le féminisme on trouve beaucoup d'alternatives, beaucoup d'autres manières de faire sécurité, beaucoup d'autres manières d'habiter et de faire la ville. Je pense à la tradition du féminisme anticarcéral, aux expériences de justice communautaire qui tâchent de faire sens et enfin de gérer la violence qui se déploie dans certains quartiers autrement que par l'institution policière et pénale. Je pense au droit à la ville initié par Jane Jacobs dans les années 60 aux États-Unis et poursuivi par des militantes féministes et l'urbanisme féministe aujourd'hui qui pensent la sécurité dans la ville, le soin des corps et des esprits et la bienveillance et le soin des uns portés aux autres. Tout ça, c'est des choses qui malheureusement passent sous les radars dans un débat public dominé sur ces questions par une approche basée uniquement sur la peur, sur des approches psychologisantes de la déviance plutôt que de s'interroger sur pourquoi notre société crée ces violences et comment on pourrait y remédier en luttant contre les inégalités, en luttant pour le bien commun et plutôt que pour toujours plus de police et de pognon balancé pour arroser une industrie technosécuritaire qui construit un monde pété et qu'il nous faut mettre à bas.